Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. Indonésie attendrait bientôt l'autosuffisance énergétique avec le Brésil et le Congo. Indonésie et 127 pays ont souligné l'impact de la crise climatique sur les océans lors de la COP 29. Indonésie ouvrirait le marché d'exportation du Royaume-Uni via le CPTPP. Indonésie et Norvège lancent officiellement la quatrième phase de financement pour la réduction des émissions. Le budget de l'éducation serait le plus important de la PBN 2025. KKP est prêt à adopter la technologie pour les centres de production de sel de Nusa Tenggara orientale. Et Skaka Migas est convaincu que l'objectif de production pétrolière de 2025 sera atteint grâce à l'exploration. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, a déclaré que l'Indonésie est l'un des trois pays au monde capable d'atteindre l'autosuffisance énergétique. Lors de la présentation de la liste d'exécution des budgets d'IPA et de la liste des allocations de transfert aux régions pour l'exercice 2025, ainsi que du lancement du catalogue électronique au Palais d'État de Jakarta mardi, le chef de l'État a déclaré « La suffisance est également une priorité de la stratégie de transformation de l'Indonésie ». Le président Prabowo Subianto a déclaré
« Mungkin hanya tiga negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi »
Peut-être que seuls trois pays dans le monde seront réellement en mesure d'être autosuffisants à 100% en énergie dans un avenir proche. Et parmi les centrales qui sont des sources d'énergie renouvelables, seuls trois pays sont possibles, le Brésil, le Congo et l'Indonésie. Le président Prabowo Subianto a souligné que l'Indonésie devait faire preuve d'intelligence dans l'utilisation de cette richesse naturelle, d'autant plus que l'autosuffisance énergétique est la priorité du gouvernement pour anticiper l'incertitude mondiale. Le chef de l'État a estimé qu'outre l'autosuffisance énergétique, l'autosuffisance alimentaire constitue également la stratégie du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire. Actuellement, le gouvernement met en œuvre le programme B35 qui est une politique qui exige de mélanger 35% de biodiesel au carburant diesel. Le gouvernement vise à rendre obligatoire l'utilisation du B40 à partir de début 2025 et du B 50 en 2026. Le directeur de l'utilisation des côtes et des petites îles au ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Mohamed Youssouf, a déclaré que l'Indonésie et les 127 pays participants à la COP 29 ont publié une déclaration commune soulignant la menace de la crise climatique pour les océans et leurs écosystèmes. Youssouf, lors de la réunion de coordination sur le développement des questions océan-climat après la COP 29, CCNU CC 2024, qui a été suivi en ligne par Antaraj Jakarta mardi, a déclaré que l'Indonésie et 127 pays amis de l'océan et du climat ont publié une déclaration commune soulignant l'impact significatif de la crise climatique sur l'océan et son écosystème. Il a expliqué que la déclaration commune mettait l'accent sur plusieurs points, notamment l'importance des actions d'atténuation et d'adaptation basées sur les océans, le dialogue sur les océans et le changement climatique en tant qu'étape stratégique pour la protection des écosystèmes, et l'importance du financement de l'action climatique basée sur les océans. Ensuite, les pays participants ont également exprimé leur reconnaissance du rôle des peuples autochtones, des communautés locales, des femmes et des jeunes en tant qu'éléments clés dans la planification et la mise en œuvre d'une action climatique basée sur les océans. Le ministre coordonnateur des Affaires économiques de la République d'Indonésie, Erlangga Hartarto, a déclaré que l'Indonésie avait la possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés au Royaume-Uni grâce à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste CPTPP. Ce potentiel commercial suit les étapes du Royaume-Uni qui devrait demander son adhésion pour devenir membre du CPTPP le 15 décembre 2024. Erlangga, lors de l'événement Business Indonesia Economic Outlook 2025 à Jakarta, a déclaré mardi qu'en rejoignant le CPTPP, qui a désormais 11 pays membres et l'ajout du Royaume-Uni en décembre, cela ouvrira le marché latino-américain et nous ouvrons le marché britannique. Le CPTPP compte actuellement 11 membres, à savoir l'Australie, Brunei Darussalam, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam. Après l'adhésion de la Grande-Bretagne, ce bloc commercial représentera près de 15% du produit intérieur brut PIB mondial, ce qui en fera l'un des accords commerciaux les plus importants au monde. L'Indonésie elle-même est en cours d'adhésion pour devenir membre du CPTPP. Les gouvernements indonésiens et norvégiens ont officiellement lancé la quatrième phase de coopération financière basée sur les contributions, basée sur les résultats RBC d'un montant de 60 millions de dollars américains, soit environ 952 milliards de roupies, sur la base des réductions d'émissions en 2019-2020 lors de l'événement de lancement à Jakarta mardi 10 décembre. Le ministre de l'Environnement, Hanif Faisal Nurofik, a déclaré que l'Indonésie avait déjà soumis les résultats des documents de mesures de déclaration et de vérification MRV pour la quatrième étape en 2023. Ministre Hanif a déclaré qu'au cours de la quatrième étape de financement, la Norvège contribuera 60 millions de dollars américains au gouvernement indonésien pour réduire les émissions au cours de la période 2019-2020, car elle a réussi à réduire la déforestation et a été vérifiée. Au total, la Norvège a contribué à hauteur de 216 millions de dollars américains pour réduire les émissions résultat de la réduction de la déforestation menée par le gouvernement indonésien. À la même occasion, le ministre des Forêts, Raja Juli Antoni, a déclaré que cette collaboration était une forme d'effort collectif pour surmonter le changement climatique au niveau local, à travers la mise en œuvre du FOLU Net 5 2030 d'Indonésie ou un effort pour assurer un plus grand niveau d'absorption des émissions produites pour le secteur forestier et l'utilisation des terres en 2030. La ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani Indrawati, a Jakarta que les dépenses du gouvernement central en 2025 s'élèvent à 2701,4 billions de roupies. Cela a été transmis par Sri Mulyani aux médias après avoir soumis la liste d'exécution du budget DIPA et la liste des allocations des transferts aux régions pour l'exercice 2025 au palais présidentiel mardi 10 décembre. La ministre Sri Mulyani a déclaré que le gouvernement avait alloué des fonds à l'éducation s'élevant à 724,3 billions de roupies. Elle a ajouté que ce budget constitue la dépense la plus élevée pour la fonction éducative dans la PBN. Sri Mulyani a dit:
Untuk itu, dengan belanja 2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai 724,3 triliun.
Avec des dépenses de 2.700 milliards de roupies, les dépenses d'éducation ont atteint 724 300 milliards. Il s'agit de la dépense la plus élevée pour la fonction éducative dans notre APBN. Pour la santé, il atteint 218 500 milliards de roupies. La protection sociale atteint 503 200 milliards de roupies et pour la sécurité alimentaire, il atteint 144 600 milliards de roupies. Le programme alimentaire nutritif, doté d'un budget de 71 000 milliards de roupies, devrait pouvoir améliorer l'économie des régions et en particulier des villages afin de répondre aux besoins du programme de déjeuner nutritif. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que les dépenses gouvernementales seraient également allouées à un certain nombre de programmes prioritaires pour 2025, dont 20 000 milliards de roupies pour la rénovation des écoles et 2 000 milliards de roupies pour les écoles supérieures intégrées. Selon Sri Mulyani, le programme alimentaire nutritif, accompagné de fonds villageois de 70 000 milliards de mobilisera les villages et augmentera le volume d'argent qui augmentera également. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, KKP, est prêt à adopter une technologie pour la construction d'un projet pilote de modélisation pour les centres de production de sel à Nusa Tenggara Oriental, NTT. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trenggono à Jakarta, a déclaré mardi 10 décembre que le KKP formait actuellement une équipe spéciale et proposait un budget d'environ 2 000 milliards de roupies pour le développement de la production nationale de sel. Il a expliqué que la construction serait réalisée par des entreprises alimentaires publiques. Pendant ce temps, le ministre et coordonnateur de l'alimentation Menko Pangan, Zulkifli Hasan, a déclaré que le gouvernement cesserait d'importer du sel destiné à la consommation en 2025 et se concentrerait davantage sur l'augmentation de la production nationale. Zulkifli a déclaré qu'il s'agit du règlement présidentiel de la République d'Indonésie numéro 126 de 2022 concernant l'accélération du développement national du sel. Le groupe de travail spécial pour les activités commerciales pétrolières et gazières en amont, SKK Migas, estime que l'objectif national d'augmentation du pétrole mentionné dans la PBN 2025 de 605 000 barils de pétrole par jour peut être atteint grâce aux résultats de l'exploration. Le chef des Skakamigas, Joko Siswanto, lors de la cérémonie de remise des prix du Conseil national de l'énergie, DEN 2024, à Jakarta, mardi 10 décembre, a déclaré que les résultats qui pourraient augmenter la production pétrolière nationale comprennent l'exportation à Jambi, Mrang, l'utilisation de la technologie ExxonMobil et plusieurs projets qui seront en cours l'année prochaine. En outre, il a déclaré son parti avait approuvé des programmes et des financements pour l'engagement des entrepreneurs sous contrat de coopération KKKS à augmenter le transport de pétrole grâce à l'utilisation de la technologie. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Plus grande allocation à PBN à l'éducation » avec Maudry. Sergio Etard, le président Prabowo Subianto a déclaré que la plus grande allocation de la structure de budget d'État national 2025 ou la PBN 2025 est destinée au secteur de l'éducation et non au secteur de la défense, comme dans de nombreux autres pays, notamment les États-Unis et l'Inde. Le président a déclaré cela lors de la présentation de la liste d'exécution du budget d'IPA 2025 et des allocations de transfert aux régions TKD, ainsi que lors du lancement du catalogue électronique au Palais d'État de Jakarta mardi. Le président a souligné que l'Indonésie a alloué la plus grande partie de la PBN 2025 au secteur de l'éducation. En effet, le président estime que l'éducation et les services de santé sont un moyen de sortir de la pauvreté. Le chef de l'État considère que la protection sociale, comme l'assistance sociale et les subventions à la communauté, n'est qu'une stratégie ou une étape intermédiaire vers la relance économique. Le président a ajouté que l'allocation budgétaire pour l'éducation dans la structure de l'APBN pour l'année fiscale 2025 est la plus importante de l'histoire. À la même occasion, la ministre Sri Mulyani Indrawati a précisé que les dépenses gouvernementales dans l'APBN 2025 étaient fixées à 2 701,4 billions de roupies sur les dépenses totales. Les dépenses publiques consacrées au secteur de l'éducation ont atteint 724,3 billions de roupies. Selon Sri Mulyani, il s'agit de la dépense la plus élevée pour la fonction éducative de l'APBN indonésien. Heureusement, l'Indonésie est un pays archipélagique et dispose donc de défenses naturelles. En dehors de cela, l'Indonésie s'efforce toujours d'établir une amitié avec les pays voisins et de vivre côte à côte en paix. Cette condition permet à l'Indonésie de ne pas trop se soucier de sa force de défense. Pendant ce temps, l'éducation est le moyen pour cette nation de sortir de l'ignorance et de la pauvreté. Avec l'éducation, une personne peut sortir du cycle de la pauvreté en obtenant un meilleur emploi, en plus d'avoir une bonne moralité et une éthique. De cette manière, la vie nationale et étatique deviendra plus harmonieuse et plus prospère. La politique gouvernementale actuelle a donc raison de donner la priorité à l'éducation plutôt qu'à la défense dans les allocations APBN. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 11 décembre 1946, l'UNICEF est fondé. Le Fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance, ou UNICEF, est une organisation fondée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 11 décembre 1946. L'objectif principal de cette organisation est de fournir une aide humanitaire aux enfants du monde entier. Initialement, la création de l'UNICEF visait à fournir une assistance aux enfants et aux mères touchées par la Seconde Guerre mondiale. Lors de sa création en 1953, l'UNICEF a adopté pour mandat d'aider les enfants vulnérables à travers le monde, quelle qu'en soit la cause. Le nom a été changé en Fonds des Nations Unies pour l'enfance, bien qu'il utilise toujours le même acronyme, à savoir UNICEF. Passons maintenant à un événement du 11 décembre 1981, massacre d'El Mozout. Le massacre d'El Mozout a eu lieu dans le village d'El Mozout au Salvador le 11 décembre 1981. Plus de 1000 villageois ont été tués par l'armée salvadorienne. Ce massacre aurait été le pire crime de guerre dans l'histoire moderne de l'Amérique latine. La guerre civile au Salvador a fait rage dans le pays entre 1970 et 1990. En décembre 2011, le gouvernement salvadorien a présenté ses excuses pour l'incident. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la Journée internationale de la montagne. La Journée internationale de la montagne est dédiée à la préservation des montagnes et de leurs magnifiques paysages naturels. En 2002, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné 2002 Année internationale de la montagne. Un an plus tard, en 2003, l'ONU a désigné le 11 décembre Journée internationale de la montagne. C'est Juritak, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
dengan dirinya. Jadi sampai jumpa lagi. Batinku tersisa melayani kamu. Tak ada habis-habisnya. Sorry, ku tak mampu. Sorry, untuk tinggalkanmu. Habis semua uang, habis semua waktu, habis semua untukmu.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre « Indonésie et Mongolie renforcent les relations bilatérales ». La Mongolie souhaite renforcer ses relations bilatérales avec l'Indonésie, notamment après la réouverture d'une ambassade à Jakarta. Si secrétaire resmi l'ambassadeur d'Indonésie en Chine et en Mongolie, Johari Oratmangun, après avoir rencontré le ministre mongol des Affaires étrangères, Batchetchek Batmang, au ministère mongol des Affaires étrangères à Ulaanbaatar, lundi 9 décembre. Selon l'ambassadeur Johari Oratmangun, ce désir est dû au fait que l'Indonésie et la Mongolie ont une longue histoire de relations de coopération. L'ambassadeur Johari a déclaré que les relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Mongolie avaient commencé en 1956. Citant un rapport d'Antara mardi 10 décembre lors de la réunion bilatérale, les deux parties ont discuté de la coopération dans le secteur économique, notamment commercial. L'ambassadeur Johari a déclaré qu'il y avait des investisseurs indonésiens intéressés par les projets proposés par la Mongolie. De même, les investisseurs mongols sont disposés à investir en Indonésie. Les deux parties ont également discuté des mesures visant à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, notamment en facilitant l'entrée des produits indonésiens sur le marché mongol. Selon l'ambassadeur Johari, la Mongolie étant située à proximité de la Chine et de la Russie, peut également être utile comme point d'entrée sur le marché de ces deux grands pays. En outre, l'ambassadeur Johari a également fait part de ses projets de réunion avec la Chambre de commerce mongole pour discuter d'une éventuelle coopération. Il a ajouté qu'au début de l'année prochaine, son parti organiserait un forum d'affaires en Mongolie pour rechercher des avancées ou faciliter la coopération future. Un certain nombre de produits proposés par l'Indonésie comprennent des produits alimentaires et des boissons, y compris le café et le thé. L'ambassadeur a déclaré que le ministre mongol des Affaires étrangères, Batchetchek Batmang, avait exprimé le désir du dirigeant de son pays d'effectuer une visite officielle en Indonésie. Le gouvernement mongol prévoit une visite de haut niveau en Indonésie. Le ministre des Affaires étrangères, Batchetchek Batmang, a exprimé son désir de rencontrer le ministre indonésien des Affaires étrangères, Sugiono, pour poursuivre les bonnes relations établies. En outre, les deux parties ont également convenu de poursuivre la coopération précédemment établie, comme la coopération dans les domaines social et culturel, y compris dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'application de la loi, les secteurs de la défense, du commerce et de l'investissement, de l'exploitation minière et de l'agriculture, socio-culturelle et la coopération dans les forums internationaux et régionaux, y compris l'accord entre Moderna Indonesia et Nonim Holding Mongolia concernant le canal de distribution d'appareils électroménagers fabriqués par Moderna Indonesia pour le marché mongol qui a été conclu l'année dernière. Depuis la pandémie de COVID-19, l'ambassade de Mongolie à Jakarta était temporairement fermée et il n'y a qu'un bureau de consulat honoraire de Mongolie à Surabaya, dans l'est de Java. L'ambassadeur Johari expliquait que l'ambassadeur de Mongolie d'Indonésie, en Taïwan Dashnyam, venait de remettre ses lettres de créance au président Prabowo Subianto le 4 novembre 2024. C'est Zritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Ku takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helaan nafasmu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, le bunker de Batu Jajar est un site patrimonial patrimoniale de la période coloniale néerlandaise qui se trouve dans une zone ouverte, notamment au bord du réservoir de Saguling, dans la région de Manglit, Cangkora, district de Batu Jajar, Rejang de Bandung Ouest. Ce bâtiment se trouve en plein milieu de la zone verte de la zone du réservoir de Saguling. Les visiteurs peuvent visiter des sites historiques tout en profitant de la vue sur le magnifique lac qui alimente le réservoir. Cette zone touristique offre des vues naturelles époustouflantes et des expériences de voyage inoubliables. L'eau turquoise est claire et entourée d'arbres verts luxuriants, faisant de ce lac un endroit idéal pour les amoureux de la nature et les photographes. Cet itinéraire vous permet également de profiter et de voir la diversité de la flore et de la faune locale tout en ressentant l'air frais de la montagne. Selon les résidents locaux, le bunker de la zone militaire de l'armée de terre indonésienne, ou TNI AD, existe depuis l'époque coloniale néerlandaise et japonaise. À cette époque, la fonction du bunker était de stocker les biens de TNI AD, tels que les armes, etc. Le panorama du réservoir de Saguling avec en toile de fond les montagnes de Bandung ravira les yeux. Vous pouvez également ressentir la sensation de parcourir le réservoir de Saguling en bateau de pêche en payant seulement 15 000 rupiah à 20 000 rupiah. Les installations ici sont également assez complètes avec des toilettes, des stalles et des salles de prière. Chers auditeurs, pour se rendre au bunker Batu Jajar, situé à environ 21 km du centre-ville de Bandung, il faut environ 1h30 de route. L'emplacement de ce bunker est toujours considéré comme un joyau caché. Certaines routes d'accès ne sont pas pavées et sont difficiles car elles sont en terre battue et rocailleuse. L'itinéraire ne peut être emprunté que par des véhicules à deux roues. Cependant, ce problème peut être surmonté car sur le chemin menant au bunker, vous profiterez une vue sur les plantations et les rizières. La saison sèche est la meilleure période pour visiter cette destination privilégiée de l'ouest de Bandung. Il n'y a pas de frais d'entrée pour les visiteurs qui viennent au bunker de Batu Jajar. Toute la beauté naturelle du lac et les vieux bunkers exotiques peuvent être appréciés gratuitement. Il existe également de nombreux sentiers de randonnée autour du lac qui vous permettent d'explorer facilement la beauté naturelle des environs. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Sebut dia menjerat hati. matiku menatapku tajam.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia. La Voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec Maudry. Le sujet d'aujourd'hui est Wow. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Wow. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et les habitants du village culturel de Pampang, dans la ville de Samarinda, dans le Kalimantan oriental. Chris a exprimé son admiration lorsqu'il a vu les femmes Dayak aux longues oreilles. Bonne écoute.
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon, dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Wow. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Wow. Banyak sekali. Très beaucoup. Anting, boucle d'oreille. Ibu, dame. Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow. Elle a beaucoup de boucles d'oreilles, cette dame. Telinga, oreille. Panjang, long. Konon, soi-disant. Masyarakat, habitant. Suku Dayak, tribu, Dayak. Wanita, femme,
cantik, cantik, belle, anak muda, jeune femme, tradisi, tradisi, tradition. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase « Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow, banyak sekali anting ibu itu. » En français, « Wow, elle a beaucoup de boucles d'oreilles, cette dame. » Dans cet énoncé, il y a l'interjection « Wow, wow, wow » qui exprime une expression d'admiration. Le mot « wow, wow, wow » a été utilisé par Chris pour exprimer son admiration pour les nombreuses boucles d'oreilles portées par une femme d'Ayak qu'il a rencontrée. Chers amis, allez écouter un autre exemple de l'interjection « wow, wow, wow » pour exprimer son admiration. « Wow, megah sekali Candi Borobudur itu !» Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. En français, wow, quel magnifique temple de Borobudur. Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. En français, wow, la rivière Mahakam est vraiment grande. Chers amis, la tribu Dayak de l'île de Kalimantan a une tradition connue sous le nom de Telingan Aru. Telingan Aru. La tradition consiste à allonger les oreilles en utilisant des boucles d'oreilles comme poids. Dans les croyances Dayak, la beauté d'une femme n'est pas jugée par son visage, mais par la longueur de ses oreilles. Chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux. Écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon, dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam dari hati lalui tanah air udara kawan camat ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang sampaikan salam untuknya dari hati lalu.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne.
Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Magazine Musical avec Maudry. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson de Nias au nord de Sumatra intitulée Moteu Ina. Cher ami, Moteu Ina a été créé par Yunus Gea. Les paroles racontent l'histoire d'un enfant qui demande à sa mère de se reposer parce qu'il pleut. Cependant, la mère a continué à travailler même si elle était trempée. Cette chanson montre le sacrifice d'une mère qui travaille dur pour son enfant. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Moteu Ina, chantée par Fans Trio. Bonne écoute!
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.